Tes poches sous les yeux, l'émission.
Eh bien, bienvenue en direct sur les ondes de Radio Béton, c'est Des Poches Sous les Yeux, l'émission. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2024. On aurait pu fêter le couronnement, l'anniversaire du couronnement de Robert Ier, qui s'est fait couronner à Reims en 982. On aurait pu aussi fêter hier, c'était l'anniversaire de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, à la veille d'un grand bouleversement qui allait entraîner l'Europe et le monde dans la guerre. Et aujourd'hui, sommes-nous la veille d'un pareil tumulte ? Non. Un pareil temps sauvage, ça tombe bien car nous sommes au temps sauvage, la librairie Avenue de Gramont, 82 Avenue de Gramont, et ça va être, on prend notre respiration, peut-être un dernier bol d'air, jusqu'à quand, on vous le dira. En tout cas, un rendez-vous habituel où on va parler de chroniques de livres, on va parler de chroniques de BD, vous allez voyager et vous allez aussi rencontrer des personnes qui nous accueillent déjà. Un grand merci à la librairie Le Temps Sauvage de nous accueillir. Et puis des interviews dont Pascal a le secret. Mais on va commencer tout de suite par interviewer l'hôte du jour. Et c'est Pascal qui mène la danse.
Oui, on reçoit Nicolas Vassal, le salarié associé de la librairie des Temps Sauvages. La librairie va fêter ses 2 ans.
Elle a eu 2 ans le 16 juin. Le 16 juin, on avait ouvert le 16 juin 2022. Voilà. Bonjour.
Une grande victoire.
Une grande victoire. On n'a pas encore crié victoire, mais on s'installe bien. On est plutôt content. On a réussi à fidéliser une clientèle nombreuse et variée. On organise de plus en plus de choses. Alors j'ai une nouvelle coéquipière.
Le changement de l'équipe est un signe que la situation financière n'est pas tout à fait stabilisée ou ça n'a...
Non. C'est quelque chose que j'ai vu dans toutes les librairies où j'avais travaillé. Au bout d'un an, et demi, une des personnes se rendait compte que le décalage entre être libraire et être gérant d'une librairie, c'était assez important. Et des départs d'associés sur des créations, c'est... Enfin, voilà, moi, j'en ai vu dans toutes les librairies où j'ai bossé. Et donc, j'ai été rejoint par Véronique.
Bonjour, Véronique.
qui est une ancienne institutrice de l'école Rabelais. Qui est libraire depuis 10 ans, qui apporte énormément de choses à la librairie. Tu l'as vu en installant tout à l'heure.
Elle est là, tu ne peux pas dire grand-chose quand même. Hein.
Elle accueille tous les samedis matins des enfants pour des lectures d'albums pour les enfants de 2 à 6 ans. Un rendez-vous qui s'installe bien aussi dans le quartier et auquel on tient beaucoup.
Vous êtes d'ailleurs donc très actif sur le secteur jeunesse. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une priorité pour vous, alors qu'il y a déjà des librairies spécialisées sur le sujet qui marchent bien.
Oui, mais nous, on a toujours eu à cœur de faire une librairie généraliste qui pouvait proposer des livres pour tous les publics, de tous les âges. Donc avoir un rayon jeunesse et puis animer ce rayon jeunesse, ce que permet cet atelier de lecture de contes, on trouvait ça aussi important que de faire des animations sur les sciences humaines ou
dans un quartier très familial finalement.
Dans un quartier très familial, oui, tout à fait. Et du coup, ça répond bien et on est tout à fait content.
Parce que quand on s'est rencontrés là en octobre 2022, tu avais insisté sur le statut de la coopérative de cette librairie, alors que finalement, moi, je pense que le plus important, quand même, c'est une librairie engagée, une librairie militante.
C'est une librairie engagée. Je ne parlerai pas forcément de librairie militante. Il y a des librairies dans d'autres villes qui ont des statuts et des orientations beaucoup plus militantes, qui peuvent être en lien avec des partis, des syndicats, des groupes anarchistes, etc. C'est pas notre cas et je crois que autant l'engagement de la librairie sur un certain nombre de thématiques est reconnu aujourd'hui. Pour autant, on a une bonne partie de la clientèle de la librairie qui la fréquente sans forcément s'intéresser aux thématiques qui nous animent.
Oui, non, mais une fois qu'on a repéré, on voit bien que quand même il y a un certain nombre de sujets politiques, enfin ou de la vie, quoi.
Mais ça c'est effectivement une grande dynamique du projet, enfin c'est une grande dimension du projet et on trouve intéressant.
Que tu n'avais finalement pas mis tant en avant que ça quand on s'est rencontrés.
Mais parce qu'elle est pas, elle est importante, elle nous tient à cœur. Tout le programme, toute la programmation de rencontres tourne autour de questions qui collent avec l'actualité sociale et politique. pratique.
Voilà, c'est, hein, vos rencontres, elles sont orientées sur,
oui, tout à fait.
Sur les sciences sociales, les sciences politiques, et puis en tout cas une réflexion sur notre vie.
Oui, oui, oui. Et puis on était. J'ai pas ton prénom,
Vincent.
Mais Vincent a évoqué les temps sauvages qui peut-être s'ouvrent devant nous. Et un auteur qu'on a accueilli récemment pour parler des racismes d'État, du racisme institutionnel, a également rebondi sur le nom de la librairie comme collant à l'époque. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce titre. Hein. On trouvait que compte tenu de l'époque, il était important de s'engager dans la ville. Et on le fait pour autant. On sait aussi que une bonne partie de notre clientèle ne s'intéresse pas forcément à cette problématique-là.
Ne souhaite pas lire autre chose que des choses.
Et c'est très bien. En fait, on est au carrefour entre la librairie de quartier et la librairie de fond en sciences humaines, qui propose des choses.
Et en tout cas, vous n'hésitez pas à sortir de vos murs pour organiser des rencontres. Hein. On pense au 15 mai, vous avez organisé une rencontre bateau ivre pour parler de la crise du secteur culturel.
Tout à fait, avec un sociologue, Élie Guéraud, auteur du déclin de la petite bourgeoisie culturelle, et puis Jean-Michel Taubelem, qui est un prof de gestion qui avait un peu croisé les regards sur la crise que connaît le secteur, avec une analyse sur le temps long de ce qui se passait. Et on était hyper contents de faire ça au bateau IR, ça avait vraiment du sens pour nous de faire ça dans un lieu culturel de la ville. En plus, on a pu avoir des échanges chouettes autour de ces questions. Mais vifs, puisque deux adjoints de la ville de Tours étaient présents. Mais j'ai trouvé très intéressant qu'ils viennent et que puissent être entendus des critiques qui ne sont pas les critiques de l'opposition municipale qui n'a pas forcément un regard très, très éclairé sur ces questions, mais qui viennent de chercheurs qui ont travaillé les questions culturelles depuis longtemps. Quoi.
Le programme de politique culturelle qui serait appliqué en cas de majorité absolue aux prochaines législatives du Rassemblement national, est-ce que ça te fait peur, Sam ?
Oui, forcément. Après, c'est pas, j'ai pas d'abord peur pour la culture. Enfin, il y a d'autres thématiques, enfin d'autres secteurs, d'autres populations qui seront d'abord victimes d'une éventuelle arrivée au pouvoir du Front National. Et ça m'inquiète beaucoup plus que les impacts sur le secteur culturel, franchement.
De là à aller voter ?
De là à aller voter, oui. Alors, j'ai pas de problème à dire que je vais le faire. Je sais même plus quel était mon bureau de vote l'autre jour, donc j'ai repéré.
Donc tu votes pas beaucoup, quoi.
Non, mais parce que, mais c'est une position qui s'ancre dans pas mal de lectures et d'autres rapports à la politique que le seul bureau de vote et le seul passage par les urnes. Après, c'est intéressant parce que je vois beaucoup de gens autour de moi assez éloignés de la politique institutionnelle qui, dans ce contexte précis, et parce qu'il y a une menace assez directe, vont eux et elles aussi faire l'effort de se traîner jusque-là, jusqu'à un bureau de vote pour essayer d'éviter que le Front National prenne le pouvoir. Et j'en profite pour signaler qu'on invitera cet automne une autrice qui a fait une enquête longue sur le Front National au Parlement européen et qui montre bien comment, dans une perspective historique large aussi, montre bien comment une fois qu'un parti d'extrême droite met les pieds dans les institutions parlementaires, il est quand même très très difficile de les en faire sortir.
On est donc bien dans un repère des éco-terroristes et donc, puisqu'on parle d'éco-terrorisme, le 5 juillet, donc la semaine prochaine, encore au bateau ivre, un événement, une rencontre autour des soulèvements de la Terre.
Oui, tout à fait. On a proposé au bateau ivre d'organiser ça. Ils avaient déjà accueilli une rencontre organisée par le collectif local des soulèvements de la Terre sur un film tourné aux Lentillères à Dijon, qui est une zone maraîchère autonome qui s'est construit contre un projet d'écoquartier il y a quelques années. Et du coup, avec la sortie de ce livre, Première secousse, on a trouvé que c'était bien de réitérer ça. Et donc, on aura deux des co-auteurices de ce livre, Première secousse, paru aux éditions de La Fabrique, qui viendront le présenter le 5 juillet à partir de 19h au bateau ivre.
D'accord, d'autres événements en prévision ou ça va être le sommeil estival ?
Non, ça va être le dernier épisode de la saison qui a quand même été riche, parce qu'on a tourné à quasiment une rencontre par semaine là, depuis avril. Donc on va faire une pause jusqu'au 12 septembre où on invitera Gaspard Lyon pour un livre sur qui s'appelle Vivre au camping. Et du coup, un livre passionnant sur le logement des classes populaires.
Très bien. Et on termine avec un petit conseil de lecture.
Eh ben, par exemple, Le visage de pierre de William Gardner Smith, qui est un livre qui a été publié aux éditions Christian Bourgois il y a quelques années en grand format, qui vient d'être republié en poche. C'est un livre qui date de 1963, dont aucun éditeur français n'a voulu à l'époque, notamment parce qu'il raconte la rafle du 17 octobre 1961, pendant laquelle la police parisienne, sous les ordres de Maurice Papon, a tabassé, arrêté et jeté à la Seine des centaines d'Algériens qui protestaient contre le couvre-feu qui visait la population algérienne pendant la guerre d'Algérie. Un formidable roman sur la question raciale, hyper moderne dans son approche du sujet, par un auteur noir américain qui était un contemporain de Baldwin et de toute cette bohème noire américaine qui vivait à Paris à l'époque. Voilà, Le visage de pierre chez Christian Bourgois en poche.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cet entretien.
Merci Nicolas, et donc on se retrouve tous au Temps Sauvage, 82 avenue de Gramont, pour faire le plein de livres, hein, car les livres ont un pouvoir, celui de nous éclairer. Pendant le confinement, certains se morfondaient justement parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans leur librairie préférée. D'autres ont lu même Fab Caro, qu'on a tous apprécié. D'ailleurs, au cinéma, ça donne rien. Mais en pastille audio, c'est vraiment chouette. Et c'est Pascal, à qui on pense tous les jours, et Daniel, qui nous font ce petit cadeau.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Géraldine. Je suis absente pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip.
Oui, c'est moi, ouais. Tu t'es levé hyper tôt, dis donc. J'imagine que t'es allé acheter des croissants, c'est adorable, ça tombe bien, j'ai une faim de loup. En plus, je vois que t'as pris ta valise. Ça sent le petit déj ultra copieux, ça, petite cachetière.
Et ben voilà, nous sommes pleins d'espoir. Donc c'était extrait bien sûr de l'album de Fab Caro, Moins qu'hier. On va passer la parole à Nadia, qui va nous parler de Nadia, comme c'est bizarre, mais c'est pas toi qui as écrit, hein, Nadia.
Non, c'est pas moi. Non.
Voilà. Mais tu vas nous transporter en Sicile au début du XXe siècle.
Voilà, très exactement le 28 décembre 1908, à 5h20 du matin, un séisme d'une durée de 30 secondes, suivi d'un tsunami et de plusieurs répliques, a dévasté la région de Messine, en Sicile. Selon les estimations, ce tremblement de terre a fait de 75 000 à 200 000 morts. Le roman de Nadia Terranova, Tremble la nuit, se fait l'écho de cet événement à partir de deux personnages. Le premier habitait Reggio de Calabre, la cité la plus détruite par le séisme. Nicolas, âgé de 11 ans, doit sa survie à la folie de sa mère. Celle-ci fait partie de cette cohorte de femmes dévouées corps et âme à sa progéniture et à Dieu. Maria était persuadée qu'elle devait protéger son fils du diable et pour déjouer les ruses du malin, elle faisait dormir son fils dans la cave, à l'intérieur d'un catafalque. Et pour être bien sûre que le diable ne lui dérobe pas son fils, elle lui attachait les pieds et les bras avec des cordons bénis lors d'une procession. Le deuxième personnage de Tremble la nuit est Barbara, une jeune femme de 21 ans. La veille des événements, elle est arrivée à Messine, chez sa tante, pour une soirée à l'opéra. Elle n'a pas souvent l'occasion de sortir. Ses lectures ont nourri ses aspirations à la liberté et l'aventure et le courage de s'opposer au projet de mariage de son père, que son père a conçu pour elle. Mais rien n'y a fait. Et puis le tremblement de terre va en décider autrement. Les 22 arcanes du tarot ouvrent tour à tour chaque chapitre où l'histoire de nos deux héros se déploie comme contre-pied au destin, voire comme pied de nez. Voilà, il peut arriver des choses bonnes d'une catastrophe. Mais ce roman ne fait pas dans l'angélisme et les épreuves vont être sévères. Errant parmi les décombres, leurs routes vont se croiser dans un moment de grande violence. Outre une très belle écriture, l'intérêt de cette histoire est de décliner l'aventure individuelle dans un contexte historique. L'émotion des événements initie un élan de générosité envers les survivants qui sont accueillis sur le continent. Et puis, peu à peu, on en vient à penser que ces réfugiés posent des problèmes de sécurité et sont renvoyés en Sicile. On dirait que l'histoire se répète. Non plus encore, l'épopée de nos deux héros est une attaque contre le patriarcat, la puissance paternelle et l'asservissement des femmes aux hommes et à la religion. Pour l'un comme pour l'autre, la lecture leur avait donné l'occasion de s'échapper et de penser la vie autrement. Alors, rien que pour ça, je vous conseille ce joli roman. Ça s'appelle « Tremble la nuit » de Nadia Terranova et c'est chez Table Ronde.
Merci, merci beaucoup Nadia. On va souffrir une petite pause musicale. C'est le trio lyonnais Johnny Carwash qui nous propose « I Wanna Be In Your Band ». C'est de Johnny Carwash. Je vous propose de rester dans le garage. T'as bien garé ta mobylette, Jimmy ?
Oui, elle est garée, ouais. Je suis parti sur une chronique d'un bouquin de Robert Piercing, traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. C'est sorti chez Point. Alors, on m'avait dit, tu devrais lire ça, ça devrait te plaire.
À cause du zen ou de la mobylette ?
Un peu des deux, justement. Alors, je l'avais dans la bibliothèque depuis à peu près une vingtaine d'années, remettant toujours à plus tard la lecture de ce bouquin.
Procrastinateur.
Et puis voilà, il est réédité, il arrive aux poches sous les yeux. Et au sein des poches, on me dit, on dit que j'ai le profil pour lire le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes.
Ah, on choisit pas ces livres dans cette émission, on te les impose.
Pas toujours. Donc, bon, ça faisait plusieurs personnes qui me conseillaient ce bouquin. Bon, alors voilà. Bon, c'est vrai que je roule en Guzzi, hein, un peu moins qu'avant, c'est vrai, mais bon, quand même. C'est vrai aussi que j'ai eu une assez longue pratique des arts martiaux japonais, que je me suis penché sur quelques écrits de maître Deshimaru, qui tentait d'expliquer à un occidental moyen ce qu'était la pratique du zen et toute la philosophie de vie qui va avec la pratique. Je suis assez d'accord avec le fait qu'une philosophie... sans application dans la vie quotidienne, ce n'est que du verbiage. Regarde ce que je suis, regarde ce que je fais, et tu sauras ce que je pense. Je pense que c'est une bonne pratique. Les Grecs, quand ils mangeaient cru ou cuit, bah, c'était un acte militant d'une pensée en application. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une petite aparté. Mais donc, je me plonge dans le bouquin de Piercing. Je regarde un peu le pédigré de l'auteur. Je vois guerre de Corée, études en biochimie, puis philo, un petit passage en psychiatrie. Rédacteur technique des revues spécialisées en moto, ouais. Et tout ça, c'est dans la page de garde du bouquin. Faut avouer que le Wikipédia est assez pauvre en infos supplémentaires. Et puis j'ai pas trouvé d'autres trucs ailleurs. Bon, c'est parti. On envoie ça. Starter. Coup de kick. Gaz. Ça démarre comme un road trip à travers les États-Unis. Et c'en est un. En moto, ils sont partis de Minneapolis, lui et son fils Chris, et déroulent l'asphalte vers l'ouest, d'étape en étape. Il y a un couple de copains, John et Sylvia, qui les accompagnent un temps au guidon de leur BM. Alors, ces longs moments à rouler sur les routes américaines sont propices aux réflexions. On comprend vite que l'auteur a pris la route pour faire un break. Il est un peu en rupture de banc et il cherche à se retrouver. Ouais, c'est ça, il cherche vraiment à se retrouver. Il évoque régulièrement un personnage, Phèdre, dont il relate la vie, les expériences difficiles dans l'enseignement, ses questionnements philosophiques, ses méthodes d'analyse, sur les problèmes de dialectique, sur les dogmes, les chapelles universitaires fortifiées qui font rempart aux nouvelles pensées qui pourraient mettre à mal l'édifice universitaire. Phèdre, c'est quand même bizarre que même... hein, Phèdre, c'est pas prénom, c'est pas courant comme prénom, ça, Phèdre.
Oui, mais ça a bien existé,
bah, oui.
Sinon on n'en parlera pas.
Bon, alors, en dehors de la pièce de théâtre, Phèdre, c'est aussi un cousin de Platon et un disciple de Socrate, qu'on retrouve dans plusieurs écrits de Platon. Un personnage très impliqué dans la vie intellectuelle et philosophique athénienne, mais qui n'a pas fondé son école, ni son mode de pensée. Bon, un petit peu entre deux courants de pensée, le garçon. Et on sent bien que Phèdre, l'auteur, et l'auteur sont la même personne. Pourtant, il le décrit comme quelqu'un d'autre. Bon, un peu curieux, peut-être une petite schizophrénie latente. C'est,
c'est pas docteur, c'est voilà, vous qui travaillez dans voilà. Le secteur médical.
Alors c'est peut-être une manière un petit peu d'aborder sa rupture intellectuelle et puis son passage en psy peut-être, un petit dédoublement de personnalité. Bon, c'est vrai que les paroles et les attitudes de son fils évoquent un père un peu fragile, au bord du gouffre. Le gamin tente de renforcer sa relation avec son père pendant ce road trip sans être vraiment sûr d'y parvenir. Et l'auteur, on sent bien qu'il essaye aussi de garder une relation avec Chris, son gamin, et il n'est pas sûr d'y parvenir non plus. Bon. Durant ce trajet, d'est en ouest, les sujets vont se succéder. Les démonstrations un peu laborieuses des différentes philosophies. Pour finir sur la notion de qualité, dont je n'ai pas bien compris la finalité. Voilà.
Il faut que tu le relises.
Voilà, il développe une espèce de notion de qualité que bon, c'est pas super clair, quoi. Alors franchement, pour la philo, le monde de Sophie, c'est plus pédagogique et c'est plus clair. Hein, faut pas hésiter.
Ouais,
entre
chiant.
Les deux. Non, c'est moins chiant que Piercing. Hein,
ah, merde.
Voilà. Ouais. Alors quand on se lance dans un tel périple routier, bien sûr. Il y a un peu d'entretien mécanique. Hein. Petite casse, vidange, graissage, etc. Alors John, lui, il confie ça au garagiste. La mécanique, il n'y comprend rien, ça ne l'intéresse pas du tout, il veut que ça démarre et que ça roule. Point. Alors, voilà le point entretien des motocyclettes. Alors j'avoue que pour un mec qui a bossé dans des revues mécaniques moto, il me fait peur. Franchement, moi je lui confisquerais directement à la boîte à outils. Il s'épanche longuement sur la chaîne secondaire, celle qui relie la roue arrière à la boîte de vitesse.
Évidemment.
Voilà. Le graissage, la tension de la chaîne, mais il roule en BM. Il roule en BM. Alors toi, ça ne te parle peut-être pas, mais...
Ouais, carrément que ça ne me parle pas.
Les BM n'ont pas de chaîne. Tu vois, la firme allemande a fait le choix du cardan depuis toujours jusqu'à maintenant. Ils n'ont jamais... Alors j'ai bien recherché, j'ai regardé... s'il y avait des machines qui avaient été faites pour le marché américain...
Avec des chaînes,
et non, il n'y en a pas. Alors, moi, j'imaginais au départ...
Alors, s'il y a un cardan, les autres trois quarts, c'est quoi?
Les autres, c'est des chaînes ou des courroies.
Non, il n'a pas compris.
Voilà. Et donc, moi, je pensais qu'il roulait jusqu'à la page 50, qu'il roulait en anglaise ou en Harley. Enfin, bon, il y a plein de... Ou japonaise, enfin, bon, bref. Et je suis tombé sur un passage que je vais vous lire, hein, page 56. Un de mes amis a une moto de la même marque, du même modèle, de la même année que la mienne. OK. J'ai eu l'occasion de l'essayer. Je n'arrivais pas à croire que nos deux BMW étaient sortis ensemble de la même usine. Alors là, je me dis, non. Le mec, il persiste et il signe en parlant de tension de graisse de chaîne. Et c'est quand même un mec qui a bossé dans des revues mécaniques. Non, mais franchement, ça fait peur. Hein, ouais. Enfin, moi, je lui confie directement.
Donc, t'as écrit à l'éditeur, j'espère.
Non. Alors, j'avais aussi trouvé une coquille, mais je n'ai pas relevé non plus.
Non, enfin, c'est bien. Beaucoup. Merci, Jimmy.
Bon, bref. Donc, ils arrivent à San Francisco. Fin du trajet et du bouquin.
Et donc ?
Eh ben ouais, ça finit un peu comme ça.
Bon. Et
donc voilà.
C'était qui ?
Alors, je l'ai lu jusqu'à la dernière ligne, hein, parce que je voulais... ça m'avait pas...
On ne fait pas de chronique si on n'a pas fini de lire.
Voilà, exactement. Je pense que c'est un principe qu'il faudrait respecter. Les copains qui me l'avaient conseillé, ben, je leur en aurais reparlé. Eh ben, ils n'en avaient plus aucun souvenir non plus.
C'est plus tes copains.
Et je le comprends tout à fait qu'ils n'en aient plus de souvenirs. En revanche, je ne comprends pas que ça ait pu être un tel best-seller. Ça s'est vendu quand c'est sorti en 1974, pas mal. Et ça, ça m'étonne. Alors, pour les roadbooks, il y a mieux. Pour la philo, il y a mieux. Et pour la mécanique, vaut mieux se fier à une RTM, une revue technique moto. Tu sais, j'en avais déjà fait une chronique.
Oui, je me souviens bien. Voilà, ouais. C'était une belle chronique.
C'est vachement plus fiable. Bon. Donc là, tu vois, j'ai les deux. J'ai la dernière édition et celle que j'avais avant. Donc, je les donne. Hein, si vous voulez caler la roue de la caravane pendant les vacances au camping, c'est dispo. Ou une étagère un peu branlante, c'est dispo aussi.
Non, voilà. non merci, Jimmy.
C'est chez point, mais bon, enfin voilà. Quoi.
Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. On va retrouver Mathieu Vaudour, alias Troubadour, qui nous interprète Icar.
Ça fait tant de trucs que des pyromanes. Et quelles sont les flammes dans le fond de l'âme. Je mène mon combat sans aucune militant. Au cœur des ballards est bel et bien militant. Dans le fond de mon âme, il écrit, je l'entends. Il est même militaire. Bon, j'ai perdu la foi dans leur rêve humanitaire. Les automates ont pris le contrôle de la terre. Je ne les écoute pas, j'ai ma propre lanterne. Dans leur ombre, j'éclaire. Ika. Que le million, on veut que des millions. Le feu pour les pavillons, ça fout tant ce truc que des pyromanes. Et quelles sont les flammes dans le fond de l'âme. Je mène mon combat, au-delà des doutes et de leur putain de combat. Est-ce que je vois double ou l'humain est devenu le mal? Est-ce que je vois double ou l'humain est devenu le mal? Nos idées s'écroulent et la douleur est lancinante. On éteint nos encéphales, on n'obtient que le silence. Espoir dans la science, la vie ruinée par des gamins qui la placent en finance. Que le million, on veut que des millions. Le feu pour les papillons, ça fait tant de trucs que des pyromanes. Et quelles sont les flammes dans le fond de l'âme. Je mène mon combat, coup de coude dans le tab. À l'écoute de vos marchés, de vos infos lamentables. Mort sous des pluies de tonfa. Nos idéaux sont trahis par tous vos montages. Liés dans une même cage, les lions vous bouffront. Qu'importe vos tentatives de les dompter. Marre de ces menteurs, de les écouter. La vie est trop courte pour se laisser lamenter.
Place à l'interview de l'émission des poches sous les yeux. Aujourd'hui, on reçoit Katrina Calda, une autrice tourangelle qui vient de publier le deuxième tome de Alanga, Les hommes oiseaux, un roman clairement de la famille de la littérature de l'imaginaire. Katrina, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de Alanga, revenons un peu sur votre parcours hors norme, hein, d'origine estonienne. Vous débarquez en France à Calais en 1990, vous avez 10 ans. Comment passe-t-on d'un statut de réfugié à ce parcours scolaire exemplaire avec Agreg et compagnie ?
Alors, il faut dire qu'avec ma famille, enfin avec ma mère, on est arrivé à Calais à un moment où je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on avait un statut de réfugié, parce que c'était une période où les frontières n'étaient pas encore ouvertes à l'Est, c'est vrai, mais on va dire qu'elles se fissuraient. Le mur de Berlin était tombé. Et donc, nous, on a pu partir, en fait, par des voies légales, en quelque sorte, avec un visa touristique, certes, mais voilà. Et je dois te dire que j'ai été très bien accueillie à Calais. à l'époque. Voilà ce qui, quand on sait ce qui se passe actuellement là-bas avec le phénomène migratoire, effectivement, voilà, moi j'ai eu cette chance en fait d'être extrêmement bien accueillie et très vite intégrée. Et je pense que c'était un peu la clé, c'est ce qui m'a permis. Ah, je ne parlais pas du tout français, puisque l'Estonie était à l'époque occupée par l'URSS, ou englobée dans l'URSS, et donc il était très difficile d'apprendre des langues étrangères. J'ai appris le français, effectivement, sur place, à l'école. On m'a mis à l'école, je parlais très peu, je ne comprenais pas grand-chose. Mais c'est vrai que j'ai reçu un accueil assez extraordinaire, très vite. Voilà.
Il ne suffit pas seulement d'un accueil extraordinaire. Parce que pour,
non, non,
pour,
bien sûr. Derrière, il y a eu voilà, du boulot, des années d'études. Mais je dois dire que j'ai eu une espèce de coup de cœur en fait, avec le français. C'était la première langue étrangère que j'entendais en dehors du russe, puisqu'on apprenait le russe à l'école à l'époque en Estonie. Et pour moi, en fait, alors, je ne comprenais pas, mais c'était une langue extrêmement musicale. Et c'était comme un coup de foudre. En fait, je me dis, en fait, j'avais envie de parler cette langue. Et je crois que quand on a une telle attirance, en fait, pour un monde linguistique, ça aide à rentrer là-dedans. Et puis, en Estonie, je venais aussi quand même d'une famille où on avait fait des études, où il y avait beaucoup de livres à la maison. Donc, très vite, je suis rentrée dans le français aussi par les livres, par la lecture. Le français a été autant une langue en fait, de lecture que de parole pour moi, dès le début.
Et puis vous passez le concours de conservatrice de bibliothèque. Vous avez déjà marre de l'enseignement
Alors, j'en avais pas marre de l'enseignement, mais j'avais du mal à trouver ma place, je crois, dans le système de l'éducation nationale. Je trouvais que j'avais assez peu de marge de manœuvre, en fait, avec mes étudiants, avec mes élèves. Et c'est quelque chose voilà, qui... Je suis un peu trop rebelle, je crois. Et moi, ce que j'aime, c'est en plus de travailler avec des gens. J'avais du mal à trouver les moyens de travailler en équipe, avec d'autres collègues, etc. Je trouvais que c'était finalement un métier assez solitaire, curieusement, avec des relations très verticales, mais assez peu de relations collégiales, en fait. Et donc, je suis allée effectivement vers ce concours de conservatrice, non pas pour m'occuper des livres, mais pour m'occuper des gens, avec clairement cette intention de travailler en équipe, de pouvoir monter des projets, de pouvoir faire évoluer des structures. Et c'est vrai que j'ai trouvé là quelque chose qui me convenait bien.
Tout en écrivant hein, des romans, parce que vous avez sûrement du temps à perdre. Donc voilà, 4 bouquins, sans parler de ceux qui n'ont pas été édités sûrement, hein, chez Gallimard. Certains récompensés avec des prix de l'Académie française, sont des trucs normaux pour quelqu'un qui vient d'Estonie finalement.
Oh, je sais pas. Alors il y a tellement d'auteurs aujourd'hui qui écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Quelquefois, je me demande s'il n'est pas psychologiquement, émotionnellement plus simple en fait d'écrire dans une langue qui n'est pas notre langue de naissance, qui n'est pas la langue de notre famille, de nos grands-parents, etc. Parce que on est libéré en même temps de certains blocages, je crois. Il y a des choses en fait que je n'écrirais pas en estonien. Parce que c'est trop intime, ça brasse trop de choses en fait qui sont de l'ordre de l'héritage familial. Et en français, c'est assez simple pour moi d'approcher ça, parce que c'est une langue d'adoption.
Et donc après 4 romans, on va dire classiques, vous basculez avec Alanga dans un autre registre, dans la littérature de l'imaginaire, comme on dit, et plutôt orientée jeunesse. Pourquoi ce changement de braquet? Parce que vous ne restez jamais en place?
Alors peut-être, c'est peut-être un début d'explication. Il y a peut-être une deuxième explication qui est que... alors déjà, moi, j'ai beaucoup lu de littérature jeunesse dès mon enfance et j'ai continué après parce que dans les pays nordiques, il n'y a pas cette scission qu'on trouve encore un peu en France hein, entre littérature noble, on va dire, pour les adultes, littérature classique, etc., et littérature pour la jeunesse. Il y a beaucoup de grands auteurs nordiques qui sont passés de l'un à l'autre de manière très, très fluide. C'est encore le cas en Estonie. La plupart de mes amis qui sont auteurs là-bas sont en fait sont un peu dans les deux domaines. Ça se fait très naturellement. Ensuite, j'ai 2 grands ados à la maison. Donc, j'ai évidemment voulu leur mettre des livres entre les mains. Et donc, je me suis dit, donc c'est incroyable, tout ce qui se publie aujourd'hui en littérature jeunesse, il y a quand même des choses extraordinaires. Et peut-être que ça a réveillé un imaginaire. Et puis, il faut ajouter à ça qu'au moment où j'écrivais à Alanga, j'habitais dans une maison très isolée dans la forêt de l'Engénerie, dans la région. Et je crois que ça a un petit peu orienté mon imaginaire aussi vers un livre, et certes dans le domaine de l'imaginaire, mais aussi qui parle beaucoup de la nature, d'une sorte d'immersion hein, dans des espaces naturels.
À part ça, vous êtes fan de SF ou de fantasy ou
pas? Pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. C'est une sorte de pas de côté. Alors, j'en lis de temps en temps, mais en fait, j'ai pas une grande culture spécifiquement hein, dans le domaine du SF ou de l'imaginaire. J'ai quand même lu deux, trois choses. Très curieusement, en fait, c'est un livre qui m'est un peu tombé dessus, ce qui ne m'arrive jamais. Hein. C'est, souvent, je travaille à partir d'archives, j'élabore beaucoup en fait, mon système narratif à partir de rencontres que je fais aussi avec des personnes. Par exemple, c'était le cas de mon dernier livre adulte, La mélancolie du monde sauvage, qui était beaucoup, beaucoup basé sur des rencontres que j'ai faites avec des artistes contemporains, etc. Donc, j'ai plutôt l'habitude de travailler comme ça. Et là, Alanga, je ne peux pas dire autre chose que voilà, c'est un livre qui est un peu apparu comme ça, avec son univers, ses personnages. J'étais en train de travailler sur un roman adulte. Je l'ai mis de côté pendant une semaine pour noter le propos du livre. Alors évidemment, après, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et de retravail, de correction. Mais j'avais cette synopsis, c'était très étrange. Donc je ne peux pas vraiment l'expliquer.
Vous pouvez nous faire un petit pitch là, de ce diptyque, hein, parce que c'est un deux tomes, hein, Alanga, ce monde.
Tout à fait. Alors, le tome 1 de Alanga commence dans une vallée relativement isolée, bordée par les montagnes blanches et par la profonde forêt de l'Est. Et dans cette vallée vit une société qu'on pourrait qualifier d'agraire, d'assez traditionnelle, jusqu'à ce qu'un personnage qui s'appelle Sixte prenne le pouvoir. On peut d'ailleurs dire qu'il est plutôt porté au pouvoir par le peuple. Il leur promet de moderniser cette société, de les ouvrir un peu vers l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois au pouvoir, il va vraiment noyauter toute possibilité en fait, de résistance. Il va empêcher en fait, toute voie contraire, et notamment en contrôlant les ressources alimentaires et le système de production alimentaire. Ce qui fait que très vite, les familles de Alanga vont se retrouver à sa merci. Le livre commence au moment où le pouvoir de Sixte est très fort sur le village. Et Anna, le personnage principal, va être envoyée par son mentor vers l'Est sauvage dans l'espoir de trouver une plante légendaire qui s'appelle la paniflore et qui serait, selon la légende, une plante extrêmement nourrissante. Si Anna parvient à revenir à Alanga avec des graines de cette plante, peut-être pourra-t-on desserrer l'étau du pouvoir de Sixte. Donc ça, c'est le début du livre. Et puis, il y a une particularité, c'est que le personnage de Anna est douée du don d'oreille. Ça veut dire qu'elle capte dans la nature des tas de signes infimes que nous pourrions peut-être capter, mais que nous ne percevons pas. C'est des messages qui circulent dans le vent, ce sont des messages qui sont transmis de racine en racine, de goutte d'eau en goutte d'eau. Et grâce à cela, elle va s'orienter, elle va comprendre s'il y a des risques sur son chemin. Et puis surtout, elle va croiser d'autres personnes qui fuient pour de toutes autres raisons, qui sont extrêmement différente d'elle, qui est d'ailleurs assez sauvage, hein, assez rebelle, elle a du mal à se lier. Et pourtant, il va falloir qu'elle se lie à ses personnages, parce que tout seul, en fait, ce n'est pas possible d'affronter les risques de ce voyage, et encore moins de revenir affronter Sixte. Donc c'est aussi un peu un livre, hein, sur la solidarité, sur la façon dont on peut s'opposer à un pouvoir autoritaire, par quel biais, comment, et sans doute pas par une action solitaire, mais plutôt par le collectif.
Et ça parle aussi d'écologie, hein, par ce don d'oreille, mais aussi la nature est hyper présente dans ces deux romans. Thème qu'on trouvait déjà dans certains de vos écrits précédents.
Oui,
c'est un sujet qui vous accapare aussi ?
C'est un sujet qui, oui, ça on peut dire que ça m'accapare. À vrai dire, mon roman adulte précédent, je l'avais écrit dans un moment où je me disais mais pourquoi écrire aujourd'hui alors qu'on est en train de détruire le vivant. Je lisais beaucoup, beaucoup de livres sur voilà, l'érosion de la biodiversité, la sixième extinction, enfin, la crise climatique, etc. Et j'en étais venue voilà, vraiment à désespérer un peu de la littérature. Et je crois qu'Alanga est un peu dans la même veine. C'est-à-dire que dans La mélancolie du monde sauvage, c'est le fait d'avoir rencontré des personnes extrêmement inspirantes qui avaient fait des choix de vie assez radicaux en lien avec leur environnement naturel, hein, qui m'a donné envie en fait, de continuer à écrire. Et puis Alanga, c'est vrai que c'est un livre qui prend le sujet par un autre bout, hein, puisque effectivement on parle aussi de la question de l'autonomie alimentaire, hein, et de la façon dont on exploite ou pas finalement notre environnement naturel, dont on peut vivre dans celui-ci sans le conduire à la destruction.
Eh bien, merci Katrina. Un petit conseil de lecture, un petit conseil d'autrice. Donc, ça ne sera pas de la SF, ce sera quoi alors ?
Alors, avec plaisir, eh ben, je viens de terminer un livre qui s'appelle Une année à la campagne de Sue Hubel. Je ne sais pas si on prononce exactement comme ça, mais retenez Une année à la campagne. C'est paru à la fin des années 80. C'est une autrice des États-Unis. Et en fait, c'est une autrice qui part, elle était universitaire, elle part vivre à la campagne. Et c'est un livre en fait, où il ne se passe rien. Donc, si vous voulez un livre d'action, surtout ne lisez pas celui-ci. Il se passe en apparence rien, mais en même temps, il se passe plein de choses. Elle va en fait, s'occuper de rues. ruche et elle nous décrit sa vie dans cette campagne au contact de tous les animaux en fait, qui y habitent, y compris des animaux un peu mal aimés, les serpents, les araignées, etc. Et c'est un très beau livre, très contemplatif qui m'a beaucoup rassérénée. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien de le lire la semaine dernière et donc je le conseille pour cet été.
Très bien, merci Katrina.
Merci. Merci donc pour les deux tomes de Alanga parus chez Cyrus. On va écouter Chill Bump tout de suite. We here to laugh, all these tunes are endless. May this playlist be the path to some new adventures. Our music's too cemented. Tomorrow you'll be listening to this, reminiscing, missing out. This the future vintage. Shout out to all of you. One love for coming back. Films from the past flash before you win. You bump this track. A drunk drink, fun with friends. A summer fling. Memories linked to melodies that you hum and sing. Timeless, so glass and polished. To give you the same feeling when you go back to find this. Pull this mother up, take the whole track. Rewind it, don't hold back the beat. Don't the flow, slap the hardest.
Remember Chill Bump, we qualified as an awesome solid life act. Out track, not today, it's probably still when your Spotify app. I've been jotting my raps with my son on a mic lap. We've been on paternity leave and like that, we just brought it right back. Back on a cheerful vibe, we wishing you clear blue skies. The dad in me can't believe I wrote snip, snip, I'm some weird new guy. The years flew by, hair grew gray, beards grew white. Play our records and your adolescence is there in your rear view sight. Remember lust in the sound? It's been over a decade. Those were the best days, back when you partied all night, smoking out, hoping to get laid. You probably got kids of your own. Life is different, you are busy and grown. You've been missing the old. You back when you go to our shows, pissed off a fifth of Patron. It's time to get in your zone. You and I, 16 years old, all over. We bringing your youth back again. Consider this Bruce Madeline. New sample, loop that and then. Pass me a new pad and pen. Time to get back on that bike. No pressure, we a goose rather said.
Timeless, so class and polished. To give you the same feeling when you go back to find this. Pull this mother up, take the whole track. Rewind it, don't hold back the beat. Don't the flow, snap the hardest.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
You may have bumped this as you lifted weights or you jogged. You may have pressed play on your part just to get away from the drama, just to escape from your job. You make a bump this on a road trip in a wrap, on some smoke break in the mountains with that road split in your mouth. The music's not a part of your past. Yo, listen up now. When that old you will come back, you'll be so different from now. These are memories you have made. These will never leave the engrave. They'll come flooding in. You'll be young again when this melody's getting played. Yesterday now is gone. We all got a nostalgic bond. When y'all get old, y'all gonna sit and listen, tripping, grinning with the albums on. Records spinning as you dance along, seeing vivid pictures for an hour long. Men and women with Alzheimer's remember lyrics from a childhood songs. Pitching yourself at 100, still bumping our records and chilling, sticking to Chill Bump's catalog despite the various eras you've been in. Reliving your favorite moments, playing this over, telling your children something mad. A summer of 20, the fun you had, you remember the feeling.
Timeless, so class and polished. To give you the same feeling when you go back to find this. Pull this mother up, take the whole track. Rewind it, don't hold back the beat. Don't the flow, slap the hardest.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Come and get in that zone.
Pop your head, close your eyes, you in your zone.
Voilà, c'était les Tourangeaux de Chill Bump qui seront en tournée à la rentrée. Quelle heure est-il ? Ça ne serait pas l'heure du feuilleton radiophonique, La Bourboule Parano ? Allez, on y va pour l'épisode numéro 10.
Vous connaissez La Bourboule ? Eh bien, vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano. Le feuilleton made in béton.
Accrochez-vous bien. Dans l'épisode précédent, il s'est passé des dingueries. Nos vaillants petits soldats de Radio B, qui sont toujours dans un road trip de malade pour la Bourboule, ont rencontré un personnage pour le moins étonnant. Bon, je vous fais pas deviner, c'est impossible à trouver. Ils ont rencontré Méphistophélès, a.k.a. le diable. comme ils n'ont absolument pas respecté l'étiquette concernant une éventuelle rencontre avec le Devil, ce dernier, pas trop adepte de la conversation non violente, a tout simplement transformé Chicken en canard. Apparemment, le diable n'aime pas non plus les cours d'anglais. Oui, rapport Chicken et canard. Sur le quai de la gare d'Issoudun.
Ah ben merde, ce con de diable a transformé Chicken en colvert.
Pas sûr, hein. Je crois que c'est plutôt un Calonetta le coffris.
Un quoi?
D'ici, ça ressemble pas trop à un ananas platyrhynchos, hein, mais plutôt à un Calonetta le coffris.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ah oui, pardon, excuse-moi. L'ananas platyrhynchos, qu'on appelle couramment le colvert, a, comme son nom l'indique, hein, la tête verte pendant la période nuptiale. Un beau vert brillant, tu vois, un peu émeraude. Et celui-là, hein, tu vois, il a plutôt la tête beige tachetée. Alors peut-être que c'est un colvert qu'il y a déjà eu, mais peut-être aussi que c'est un canard à collier noir, autrement dit un Calonetta le coffris. Faudrait aller voir de plus près en fait, mais en même temps, je me dis que le Calonetta le coffris, il lui est plutôt dans le centre de l'Amérique du Sud, tu vois, en Argentine, au Brésil, en Bolivie, Paraguay éventuellement, ou en Uruguay, mais pas trop à Issoudun. Hein.
Non mais tu déconnes ou quoi là? Ton pote a été transformé en canard, et toi, là, tu me donnes un cours d'ornithologie? Mais c'est quoi ton problème exactement?
Non, c'est pas ça, mais c'est parce que t'as dit que c'était un colvert, alors...
Bon, allez, bref, faut le choper avant qu'il s'envole. Allez, viens, vas-y, fais-moi la courte échelle, je vais monter sur tes épaules.
Sur mes épaules?
Bah, à moins que t'aies une paire d'échasses dans ta poche, non? Bon, alors tu me fais la courte échelle, s'il te plaît.
La patronne commence à grimper.
Allez, vas-y, tiens-moi les jambes, pendant que je mets le pied sur ton épaule. Les jambes, j'ai dit.
Bah oui, mais non, mais c'est parce que...
Voilà.
Bon sang, cette femme a la souplesse de la panthère et l'agilité du Ouistiti à pieds jaunes.
Allez, Chicken, viens par ici. Petit, allez, viens. Viens voir maman, mon Chicken. Allez. Mais tu viens là, espèce d'enfoiré de canard.
C'est bien, fille, va s'envoler.
Mais non, mais c'est... Mais viens là, nom de Dieu, là. Mais je vais lui foutre un coup de fusil dans le cœur, chasse ton plumet, là. Ah, là, c'est bon, je l'ai. Allez, je redescends. Tiens-moi les jambes, toi.
Ok, mais cette fois-ci, est-ce que tu peux éviter de...
Mais j'ai dit les jambes, putain, tu vas pas me faire le coup à chaque fois.
Bah, t'es marrante, toi, je fais ce que je peux.
C'est ça, vieux pervers, va. Allez, viens, mon petit Chicken, hein, qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Eh, démagrer?
Alors ça, oui, hein, c'est super marrant, hein, comme blague, hein. Tu lui fais peur en plus. Allez, mon pépère, ne t'inquiète pas. Non, mais je vais pas laisser le vieux pervers te faire du mal, hein.
Ha ha, vieux pervers, comment elle t'a cassé?
Putain, Chicken, mais tu parles!
Bah et alors, c'est pas nouveau, quand même.
Bah non, tout à l'heure, tu faisais coin-coin.
Bah, je suis un canard, hein, tu veux que je fasse quoi? Miaou, waf waf. Comme un clébard, hein, le prez? Un mignon petit clébard, genre en bulldog, tu vois ce que je veux dire?
Oh, ta gueule, Chicken.
Comment ça, ta gueule? Tu veux dire ton bec, sans doute?
Oh le putain, mais même en canard, t'es toujours aussi con, toi.
Bon, allez, en attendant, faut qu'on trouve un moyen de se tirer d'ici, hein. Le train, c'est mort. Je propose qu'on chope un gus avec une voiture et qu'on lui demande de nous avancer.
Ouais, bah, de toute façon, tout est fermé à cette heure-ci, alors on n'a pas trop le choix.
Bon sang, ça fait 2 heures qu'on fait du stop et il n'y en a pas un qui s'arrête, hein. Bonjour la solidarité.
En même temps, tu prendrais, toi, un stop de clampin qui se balade sur une route de campagne en pleine nuit avec un canard sous le bras?
Et allez, ça va encore être ma faute, hein.
Allez, c'est ça, t'as raison, planque-le sous ton pull.
Et pourquoi moi? T'as qu'à le planquer sous ton pull toi-même.
Moi je préfère être planqué sous le pull de la patronne.
Alors ça, pas question.
Et pourquoi ça?
Pas sous le pull du prez, par pitié.
Mais si, parce que c'est comme ça.
Non mais j'aimerais bien savoir pourquoi.
Il pue vieux bouc le prez.
Parce que vous voulez l'égalité, dès qu'il faut planquer un canard sous son pull, comme par hasard, c'est les mecs qui doivent s'y coller.
Le vieux bouc pervers.
Mais ce n'est pas ça l'égalité, ma petite fille. Permets-moi de te le dire.
Non mais là, tu m'appelles pas ma petite fille, hein, s'il
te
plaît.
Le vieux bouc pervers qui schlingue.
L'égalité, c'est tout le monde avec un canard sous le pull. Voilà ce que c'est l'égalité.
Hé, il y a une voiture qui se pointe. Alors tu fous le canard sous ton pull et toi, Chicken, tu la boucles. Bonsoir, monsieur.
Ben là, les jeunes, on fait du stop.
Non, on fait une partie de jogging, là.
Ta gueule, Chicken.
Qu'est-ce qu'il dit, votre petit ami?
Rien du tout, mais c'est pas mon petit ami. Hein.
Ah, et vous allez où comme ça?
À la bourboule.
À la bourboule de Flipper.
Oh putain, je crois qu'on a encore tiré le gros lot.
Ah là, je dois dire que ça a l'air d'être du lourd. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait du coup? On le laisse repartir?
Ah, on peut, mais on ne sait pas quand une autre voiture passera.
Sinon, passe la nuit dans le fossé, blottis les uns contre les autres pour se tenir au chaud. Le duvet de canard, c'est bien pour ça.
Et vous pouvez nous déposer ou pas?
À la Bourboule, non. Mais je peux vous avancer au moins jusqu'à Moulin, parce qu'après, je fais la Bourg-en-Bresse.
Eh ben, ok, ça marche. Merci.
Et qu'est-ce que vous allez faire à la Bourboule?
On doit participer à un festival.
À la Bourboule de pétanque?
La Bourboule parano. Le feuilleton made in béton.
Et ben voilà, c'était l'épisode 10. Vous êtes bien en direct sur Des Poches sous les yeux, l'émission qui est en direct des Temps Sauvages, 82 avenue de Gramont à Tours. Tous les épisodes, les 12 premiers en tout cas, sont disponibles en podcast sur podcast-radiobéton.com. Vous connaissez le Marsupilami ?
Putain, il m'a spoilé, je suis dégoûté. Putain.
Enfin, si vous ne connaissez pas, Daniel va vous en parler.
Oui, si je dis Ouba, 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 manifestement, ouais, c'est, ça vous évoque quelque chose
pour certains ? Un album de Iggy Pop ?
Non, alors ça ne marche pas.
Lio.
Soit ça vous cause, et là c'est bon. Hein.
Ah, ça ne serait vous pas le Marsupilami ?
Ouais. Oh, dis donc, comme le Hellfest, donc. Le monde de la BD entretient ses mythes et légendes. C'est vrai quand même, selon deux modèles. J'ai bossé ce matin. Là où les vieux, très vieux groupes de métal de la planète rafistolent en partie leur line-up. Alors là, on a un Parkinson, ici une dégénérescence sénile, ailleurs une défaillance vocale patente doublée d'un embonpoint, digne de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Ça, c'est
on dit pas de mal de Robert Smith, s'il vous plaît.
Mettre l'écrou. C'était le Hellfest, ils sont pas passés au Hellfest, ce cure.
Ah, pas quand j'y suis allé.
Au Hellfest ?
Non, j'y suis pas allé.
Ok. Alors, du côté de la BD, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? On tape plutôt sur une reprise graphique à l'identique, des vieux, hein, des monuments de la bande dessinée. Alors, par exemple ?
Astérix.
Ouais, ben voilà, j'avais noté Astérix.
Lucky Luke.
Astérix, il y a le comment on appelle ça ? Le scénariste, le dernier, c'était Fab Caro. Et puis, le dessinateur, je ne sais plus qui c'était. Mais ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se faisait avant. Et pour Spirou aussi, c'est un peu le cas, quand même. Et le second cas de figure, une réinterprétation libre du personnage.
C'est beau, ça.
Et de ses traits caractéristiques. Par exemple quoi ? Bah, Lucky Luke, il y a eu plusieurs tentatives d'utiliser le personnage et ses caractéristiques de Lucky Luke.
Pas toujours heureuse.
Bah, il y a celui qui a tué Lucky Luke, là, ce qui était bien, moi j'ai bien aimé. Il y en a une de Jules. Pas le rappeur, hein, mais l'autre là, tu vois, celui qui fait, voilà. Ou alors, un spin-off à la manière de la série TV, et c'est sur ce mode que peut-être lu La Bête, que je vais présenter là rapidement. J'en suis à combien de minutes là ?
Vas-y, okay. La Bête.
En référence directe, et tu l'as dit, au Marsupilami.
Ah, l'animal à la queue préhensible.
Oui, c'est un animal étrange. Alors, entre quoi ? Entre le singe...
Et le guépard ? Le jaguar ?
Léopard, je dirais moi.
Léopard.
Ouais, plus. Et puis la queue.
Je connais pas trop en fauve.
Moi non plus. Et le caoutchouc, parce que pour la
queue. Ce qui rebondit super bien sur sa queue, ouais.
Ah oui,
ouais.
On sait pas très bien. Donc la bête, c'est elle ou lui, parce qu'on sait pas. Avec quand même là une tonalité plus sombre dans ce volume de Franck Pré et Zidrou. Franck Pré, c'est le dessinateur, et Zidrou, c'est le scénariste. Dès les premières pages, on entre dans une atmosphère qui est vraiment très, très, très lourde. Elle est poisseuse.
C'est dark. C'est très dark.
C'est dark. Tu l'as lu ?
Bah, bien sûr.
Ah, c'est oppressant et c'est pesant. On est sur le port d'Anvers.
Exactement.
Tout se passe en Belgique. Hein.
Une fois.
On peut dire Belgique ou Flamandie ? On ne sait pas.
La Belgique.
OK. Avec des dessins pleines pages de cargo à la coque surdimensionnée. C'est magnifique, vraiment.
Cargo à la coque surdimensionnée.
Oui, parce que tu le vois d'en bas. J'ai pas fini. Tout au crayon de couleur, sur un grand format, c'est quand même bien bluffant. Alors, les auteurs, parce qu'ils sont deux, installent une atmosphère bien étrange quand même, si tu l'as vu, un petit peu, qui rapidement m'ont conduit à m'interroger sur le chemin emprunté. Un peu comme le mécanisme d'installation de la compagnie La Machine, à Nantes. Ils installent un truc, ils avaient mis une caisse là, dans un quartier, et ils l'ont laissé pendant 2-3 jours pour que la rumeur enfle. Il y avait des odeurs d'animaux, il y avait des bruits d'animaux, il y avait. Et ben là, on est un peu pareil sur les 50 premières pages de la BD. On ne sait pas très bien, c'est bien poisseux. Alors d'un côté, on pénètre dans le quotidien d'une famille monoparentale. Et en 55, la famille monoparentale, ben c'est chaud. Et une mère, on comprend très vite, elle a eu un bâtard avec un soldat teuton. Alors dans ma bouche, bâtard, ce n'est pas discriminant. Je fais moi-même partie de la confrérie. Et on est en Belgique, donc à Anvers, ça j'ai déjà dit. Ça cause flamand, même dans les... Ça, c'est un peu gênant pour moi, parce qu'il faut que je lise les notes de bas de page, et je me crois au boulot. Et à ma droite, Franz, le bâtard, qui vit seul avec sa mère, qui est bien canon, elle est pauvre, mais elle est bien canon. Et bien canon. Elle vend des moules en Belgique.
C'est normal.
C'est normal. Hein.
Parce que...
Comment tu dis ?
Je sais pas.
Moi,
je
si, dirais... tu l'as dit.
Et Fredjes.
Lui, le gamin, là... Il recueille tous les animaux qu'il trouve. Alors, dans le désordre, on a un cheval alcoolique qui boit vraiment, un couple de castors libidineux, parce qu'ils sont vraiment tout le temps assemblés, un aigle qui ne vole pas, une couleuvre sénile, une taupe albinos, j'ai noté, parce qu'une caille sans plumes et autres consorts. Tu as combien ?
Encore une minute.
Ça va. Persécution scolaire, ça c'est son lot habituel au jeune homme, hein, à Franz, qui est lié à son ascendance allemande, sans cesse rabâché, Franz. Il est toujours pris par un bouc émissaire. Et l'Institut de France, il est un petit peu comme... Ça, c'est les références pour les vieux. Comme Pause Café. Vous vous souvenez, Pause Café, c'est une série. Ou l'Institut qui a une moto, là, qui est toujours gentil, tout ça, et prévenant. Bon, il le protège. Enfin, surtout, l'Institut, il rêve surtout de pécho sa mère, quand même. Ça, parce qu'il s'habille bien, tout ça. Bref. Et à ma gauche, donc, un cargo en quarantaine dans le port d'Anvers. Les cales blindées d'animaux exotiques morts, parce qu'il est en captivité. Et une bête très curieuse qui, compte tenu de sa force prodigieuse, va atterrir
dans la collection de Franz.
Dans l'Arche de Noé de Franz. Et voilà. Commence l'arc narratif. Je l'ai emprunté à Larsenet qui dit qu'il n'aime pas les arcs narratifs, mais je trouve que c'est classe. Alors, voilà, c'est tout.
C'est tout.
Non, c'est pas tout. Côté grand format, côté forme, on est grand format, imprimé sur du genre de l'offset un peu épais, 156 pages, 28 sur 24,9. Ça coûte... Ça coûte pas très très cher, 27,95 €. Hein. On peut pas le lire allongé, hein, parce que sinon il faut retourner à la salle. Hein.
On a des boss.
Oui. Alors, pour ne pas spoiler nos auditeurs, j'ai presque fini. Je ne parle ici que du volume. Je vois pas l'heure. Que ici du volume 1. Ça me ralentit. Et le volume 2, lui, je le chroniquerai plus tard. Hein. Alors, le dessinateur, Franck Pré, a annoncé que La Bête deviendrait une série, ce qui financièrement n'arrange pas mes affaires. Je pensais que les éditeurs avaient quand même fait un amende honorable et arrêté de nous pondre des séries à rallonge, à échasse, genre 12 volumes pour le Bouncer, 9 pour les magasins généraux, 8000 pour le Scorpion. Alors moi, je dis stop.
Stop. Merci, voilà. Daniel. C'était donc La Bête, le tome 1, paru chez Dupuis. C'est la fin de Dépoche sous les yeux, l'émission. Et donc, c'était en direct des Temps Sauvages qu'on remercie pour leur accueil. On va remonter ça pour la rediff. La rediff qui aura lieu, je ne sais pas quand.
Demain.
Demain.
Ou après-demain.
Après-demain, le jour d'après.
Oui, toujours le jour d'après.
Le jour d'après. Ouais. Donc faites bien votre travail demain, votre travail civique. Et sinon, allez dans les librairies, allez dans les bibliothèques, allez où vous voulez, mais lisez. Salut.
Tes poches sous les yeux, l'émission.